France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et l'on commence par ces menaces en cascade. Plus d'un millier de médecins hospitaliers, dont 600 chefs de service, signent une lettre ouverte ce matin. Ils menacent de démissionner de leurs fonctions administratives, et ce, s'ils n'obtiennent pas rapidement un rendez-vous avec la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Ces médecins réclament un plus gros budget pour faire face au déficit chronique de l'hôpital public. Ils réclament aussi de meilleurs salaires. De meilleurs salaires, les enseignants les ont obtenus à la sortie d'une réunion avec leur ministère hier soir. On a désormais l'enveloppe, 500 millions d'euros pour une augmentation dès 2021. Cela servira à pallier les baisses de revenus en fin de carrière liées à la réforme des retraites. Le mouvement social par ailleurs contre cette réforme des retraites se poursuit ce mardi sur les rails, 41e jour né de mobilisation. Il y aura aujourd'hui 8 TGV sur 10, 3 TER sur 4 en moyenne selon la direction de la SNCF, du mieux également sur le réseau francilien à la RATP. Et après les manifestations de jeudi dernier contre cette réforme, 3 enquêtes de l'IGPN, la police des polices, ont été ouvertes pour des faits de violence présumés. Lors de ses vœux hier, Christophe Castaner a rappelé les forces de l'ordre à leur devoir d'exemplarité et d'éthique. Le ministre de l'Intérieur, qui a aussi rendu hommage hier aux policiers morts après un contrôle routier en banlieue lyonnaise. L'homme de 45 ans a été percuté par un fourgon alors qu'il tentait de l'arrêter. Il n'a pas survécu à ses blessures. Des rassemblements doivent avoir lieu devant les commissariats aujourd'hui à l'appel de syndicats majoritaires. Au Sahel, il y aura bientôt 220 militaires français supplémentaires. Ces soldats doivent arriver dès la semaine prochaine et ils rejoindront les 4500 hommes déjà sur place qui composent la force Barkhane. Le président Emmanuel Macron l'a annoncé hier lors d'un sommet avec les chefs d'État du G5 Sahel. Soulignons enfin cet avertissement du régime iranien à Londres. L'ambassadeur britannique sera expulsé en cas de nouvelle provocation. Il avait été arrêté ce week-end après avoir participé à un rassemblement non autorisé contre le pouvoir en place. Il manifeste en nombre depuis qu'un avion de ligne ukrainien a été touché par un missile iranien. Catastrophe aérienne qui a fait 176 victimes la semaine dernière.
Sergueï Babayan, virtuose du piano d'origine arménienne, en récital à l'Auditorium de Radio France le mardi 28 janvier à 20h. Il interprète deux grandes pages de Franz Liszt, la vaste deuxième ballade et les funérailles composées à la mémoire de Chopin, et propose un ensemble d'extraits des suites de Rameau qui nous transporteront vers d'autres espaces. Entrez au cœur du concert. Renseignements et réservations, maisondelaradio.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03. Toufik Hakem est à vos côtés pendant une demi-heure.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, à la radio ou en podcast, et ce matin en compagnie du biophysicien Christophe Lavelle, commissaire de l'exposition « Je mange tant que je suis », qui a lieu en ce moment au Musée de l'Homme, place du Trocadéro à Paris. C'est jusqu'au 1er juin, exposition qui interroge la relation de l'homme aux aliments et l'évolution des pratiques alimentaires selon les rites, les cultures, les religions, selon les modes et les modèles économiques et politiques également, on le verra. Exposition scientifique, ludique, transdisciplinaire, l'art, l'histoire, la science, l'anthropologie et même la géopolitique s'invitent dans ce grand banquet.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Christophe Lavelle.
Bonjour.
L'exposition « Je mange tant que je suis » est très scientifique, c'est bien de préciser, très poétique également, très bien mis en scène dans le sens théâtral même de l'expression, puisque votre exposition se joue en trois actes dans trois salles, avec 450 objets qu'on peut toucher, sentir, mais pas manger d'ailleurs.
Alors qu'on peut toucher pour certains, peut-être, ouais. Mais enfin pas beaucoup quand même. Les objets sont quand même mis à distance, on a quelques pièces un peu précieuses évidemment. Et cette mise en scène, c'est aussi et surtout le travail de ma co-commissaire Marie Merlin, qui donc a assuré le commissariat muséographique, moi n'étant que le commissaire scientifique, c'est-à-dire on se partage vraiment la construction et la co-construction du contenu et de la manière de présenter ce contenu, évidemment.
Mais alors cette mise en scène, c'est effectivement trois salles, trois actes, trois moments.
Trois moments et surtout trois échelles différentes. C'est-à-dire qu'on a vraiment voulu avoir une espèce de parcours d'échelle, dans le sens que la première salle est consacrée à l'individu, la deuxième aux sociétés, donc au rapport entre les individus. On change d'échelle, on grossit, ou on s'éloigne, ça dépend de l'analogie qu'on prend. Et puis la dernière salle, c'est les rapports entre les sociétés à l'échelle de la planète. Donc c'est vraiment les modes de production. Donc on a vraiment ce facteur d'échelle qui est important, et en même temps aussi peut-être un fil conducteur historique, puisque la première salle démarre avec la préhistoire, et puis dans la dernière salle, on termine avec les idées sur le futur.
Tout ça avec le thème « Comment on a mangé, comment on s'est alimenté et comment on va continuer à le faire ?»
Oui, parce que c'est une question du quotidien. Ça concerne tout le monde, le fait de manger, ça concerne tous les individus, ça concerne et donc toutes les sociétés, et ça concerne la planète au sens large. Donc c'est pour ça qu'on a aussi voulu traiter ces différentes échelles, parce que en montrant en même temps que toutes les problématiques soulevées par les différents enjeux de l'alimentation sont imbriqués. C'est-à-dire que quand on veut bien manger aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ça soit bon. Alors bon, mais bon pour se faire plaisir, bon de goût. Il faut que ça soit bon pour la santé, à court terme comme à long terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'intoxiquer, mais en même temps, il ne faut pas que ça déclenche un cancer au bout de 30 ans. Il faut que ça soit, si possible, bon pour... On dit bon pour la planète, enfin c'est bon, on va dire bon pour l'environnement, bon pour l'homme qui est sur la planète, et donc dans des systèmes qui soient durables, si possible, c'est-à-dire bon pour les générations futures aussi. Il faudrait que ça soit bon d'un point de vue éthique. On parle beaucoup du bien-être animal, mais on parle aussi du bien-être des producteurs, et des justes revenus aux différents paysans à travers le monde. Donc on se rend compte que ça fait beaucoup de facteurs, si on veut tenir compte de tout ça, que ça soit sociologiquement, écologiquement, sanitairement, hédoniquement bon, ça fait du boulot. Hein.
Comment se prépare ce genre d'exposition? Comment vous avez imaginé cette exposition « Je mange, donc je suis » ?
Alors c'est grosso modo deux, trois ans de travail, ça dépend... C'est-à-dire qu'à un moment donné, une exposition comme ça, il y en a une tous les ans au Musée de l'Homme. C'est-à-dire qu'une exposition qui dure 8-9 mois, une exposition temporaire, on en fait une par an, donc tous les ans on choisit un thème. Un thème plus ou moins d'actualité, plus ou moins général. Avant, il y avait Néandertal. Bon, là, on a choisi l'alimentation, sachant que la dernière fois qu'on avait traité ça au Musée de l'Homme, c'était il y a 25 ans. Donc on s'est dit, le comité éditorial s'est dit, bon, 25 ans, sur un sujet qui intéresse tout le monde, c'est peut-être le moment de le remettre un peu en avant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets qui sont devenus des sujets d'actualité brûlants. Donc, il y a 25 ans, on avait traité la cuisine, avant tout. C'était les cuisines du monde, dans une démarche assez ethnologique. Là, on a dit, il faut traiter de l'alimentation au sens large. Donc, par défaut, et forcément de manière un peu superficielle, mais assumée, à savoir, on voudrait montrer un peu tous les différents enjeux, que ce soit des enjeux, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, que ce soit sanitaire, écologique, et puis en montrant les différentes disciplines qui travaillent sur l'alimentation, en montrant l'approche des préhistoriens, l'approche des physiologistes, l'approche des sociologues, donc tout ça fait, on avait rapidement un puzzle, pas vraiment un puzzle, mais on va dire une page blanche avec de quoi faire une dizaine d'expositions. Et puis on s'est dit, bon ben voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va choisir, qu'est-ce qu'on va mettre en avant, quel sujet on va privilégier, lequel on va laisser tomber, ce qui est toujours un peu frustrant. Parce qu'on a toujours, moi j'ai rassemblé un comité scientifique pour travailler avec moi, n'étant pas expert dans tous les sujets, évidemment. Évidemment, des frustrations, ça c'est important, ça c'est important, ben oui, mais bon, ça on peut pas en parler. Donc on a fait un gros tri, c'est le principal travail pendant un an, c'était trier et de délaguer au fur et à mesure pour garder un squelette qui fasse une exposition de 650 mètres carrés visitable en deux heures et que ça parte pas dans tous les sens.
Alors on va déambuler avec vous, vous êtes au studio, mais on a à peu près toutes les illustrations de cette exposition qui a lieu, je le rappelle, jusqu'au 1er juin au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et d'ailleurs le fait que ce soit ce musée-là, on n'est pas surpris d'abord de ce clin d'œil à Descartes, je mange donc je suis, et puis surtout au crâne, il y a beaucoup de crânes qui sont exposés dans ce musée. Vous allez me dire, Christophe Lavelle, que c'était la moindre des choses pour le muséum d'histoire naturelle.
Oui, c'est-à-dire qu'on a effectivement, alors le muséum d'histoire naturelle, la maison mère, le muséum national d'histoire naturelle, c'est des 60 millions de spécimens dans les collections à peu près récoltés depuis un peu plus de deux siècles. Et dans ces 60 millions, il y a effectivement, j'ai plus le chiffre exact, mais plusieurs milliers de crânes, 18 000, quelque chose comme ça, dont certains sont un peu particuliers parce qu'ils correspondent à des personnages identifiés. D'autres sont particuliers parce que des crânes d'Australopithèques ou des crânes de Néandertal, il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est encore une autre, un autre domaine, on va dire. Mais là, on a des crânes beaucoup plus récents et dont effectivement celui de Descartes. Le crâne de René Descartes est dans le parcours permanent, est exposé dans le parcours permanent du Musée de l'Homme. Et pour cette exposition Je mange donc je suis, il se trouve qu'on a retrouvé dans nos collections le crâne d'Antonin Carême, qui était un des 300 crânes de la collection du Moutier, qui avait été légué au Musée de l'Homme il y a quelques temps. Et c'est quand même, Antonin Carême reste encore aujourd'hui l'emblème du... D'ailleurs, il était surnommé cuisinier des rois, roi des cuisiniers, de son temps, décédé en 1833. Et c'est vraiment lui, peut-être avec Escoffier et quelques autres, qui ont construit ce qu'on appelle la grande cuisine française et qui ont beaucoup essaimé à travers le monde et fait connaître cette cuisine, enfin tout le côté un peu sophistiqué et très théâtral de cette grande cuisine qui était la parade des grandes cours. D'ailleurs, Carême a été le cuisinier de Talleyrand, lui-même ministre de Napoléon, mais il a aussi œuvré dans pas mal de grandes cours princières en Europe et il a vraiment fait rayonner cette cuisine, donc on avait envie de le mettre en avant dans cette exposition pour montrer justement ce rayonnement qu'a eu et que continue d'avoir quand même la cuisine française.
Non, je ne veux plus jamais travailler, plutôt crever. Non, je n'irai plus jamais au supermarché, plutôt crever. Non, mais laissez-moi. Non, mais laissez-moi manger ma banane. Non, mais laissez-moi. Non, mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Oui monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout. Alors, laissez-moi, 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 laissez-moi. Non mais laissez-moi. Non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi. Non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi. Non mais laissez-moi. Que de pas finir ma banane.
L'art de manger une banane par Philippe Catherine sur France Culture dans le réveil culturel consacré à cette exposition qui a lieu en ce moment au Muséum de l'Histoire Naturelle. Je mange donc je suis. Je suis en compagnie avec le commissaire scientifique de cette exposition, le biophysicien Christophe Lavelle. On voyage dans le temps et dans le monde dans cette exposition, d'un repas dans les cavernes des temps préhistoriques jusqu'à un dîner à l'Élysée, donc tous les temps, d'un thé au Sahara en Algérie à une soupe mexicaine, tous les univers et de la paysannerie à l'industrie de l'agroalimentaire d'aujourd'hui, tous les modèles. Et puis bien sûr, la religion est très présente, hein, du fruit défendu aux aliments en poudre pour les cosmonautes. On a à peu près tout. Comment manger ?
Tout, oui.
Presque
non.
Tout.
Ouais, le domaine est tellement vaste, comme je disais, il aurait fallu 6000 m² plutôt que 600 pour avoir presque tout, mais c'est vrai que l'alimentation étant un fait universel, partagé par tous à travers le monde et de tout temps, les discours qu'on peut porter dessus sont à peu près infinis. Donc après, il s'agissait justement de montrer cette imbrication, qui est une imbrication aussi bien à l'échelle géographique, historique, mais aussi surtout, vu du point de vue scientifique, disciplinaire. C'est-à-dire que quasiment tous les champs de la connaissance ont quelque chose à dire sur l'alimentation. Que je sois psychologue, physiologiste, médecin, chimiste, biologiste, physicien, etc. J'ai toujours quelque chose à dire sur l'alimentation.
Et même sociologue d'ailleurs.
Et sociologue, et ouais, historien, et géographe, et philosophe, et tout, et géologue. On a toujours quelque chose qu'on peut raccrocher à l'alimentation et qui peut éclairer nos manières de s'alimenter.
Alors tout ça, ça commence quand même par le sacré, par le fameux fruit défendu, par l'alimentation autorisée par rapport à une autre qui ne le serait pas.
Oui, mais c'est-à-dire que l'alimentation est un fait social aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'au-delà des contraintes physiologiques qui font qu'on a besoin de s'alimenter, c'est-à-dire que d'ingérer des calories pour avoir un peu d'énergie, puis quelques micronutriments quand même pour rester en vie le plus longtemps possible, assez rapidement, dans la construction de l'homme, effectivement, il y a des interactions sociales qui se mettent en jeu et qui ajoutent des contraintes, je dirais artificielles puisque culturelles, à nos manières de table et nos manières de cuisine. Les interdits alimentaires sont effectivement les exemples les plus typiques d'une contrainte totalement artificielle que l'on s'impose pour des raisons idéologiques, éthiques et philosophiques et donc religieuses.
Et des fois c'est juste le goût, hein, c'est très subjectif et assumé.
Parfois ça peut être le goût, mais le goût c'est jamais des interdits. Mmh. Le goût ça va être pour le coup très souvent subjectif et qui peut être un goût qui peut être forgé dans une société donnée parce qu'on va avoir une habitude ou pas pour certains aliments, mais il s'agit pas du tout d'interdits, c'est vraiment une essence qui est très différente. Le fait que j'ai pas envie de manger de migale, effectivement vient du fait que j'ai pas grandi au Vietnam, j'ai grandi à Paris, mais rien ne m'interdit de le faire. Après, le rapport aux aliments, les rapports religieux sont des rapports beaucoup plus avec des injonctions qui sont incontournables et qui sont d'ailleurs assez compliquées à justifier, entre guillemets, pour des raisons, à remonter d'un point de vue historique pour les raisons pour lesquelles ces interdictions ont émergé. Il y a quelques scénarios, mais c'est pas toujours évident de comprendre finalement pourquoi à un moment donné dans l'histoire, les hommes se sont interdits tel ou tel aliment. Quoi.
Et puis aussi, il y a la sociologie, celle qui revient sur un thème lui aussi très contemporain, c'est-à-dire le genre. Comment occuper cet espace qui est un espace dédié à l'alimentation, la cuisine, par exemple, suivant notre genre.
Oui, et c'est clair qu'il y a un biais genré qui est partagé par beaucoup de sociétés, mais pas forcément toujours dans le même sens.
Il y a même des aliments genrés pour
oui, tout à fait. Alors des aliments genrés, c'est un peu quand on regarde la réalité, c'est-à-dire qu'en tout cas en France, hein, les chiffres qu'on avait sortis, il y a beaucoup moins de différences qu'on l'imagine. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on voit à travers les médias ou les magazines, où effectivement on imagine tout de suite l'homme viandard et puis la femme avec sa salade healthy, et alors dans les vrais...
Il est reçu,
parce que dans les vraies habitudes de consommation, effectivement, il y a un petit peu plus de charcuterie consommée chez les hommes, il y a un peu plus d'alcool, mais en fait c'est pas très significatif, et pour le reste on est quand même dans des alimentations qui sont très similaires. Après, les différences, c'est plus dans les constructions sociales, effectivement, la place de la femme et de l'homme en cuisine, pour des raisons purement domestiques, où c'est vrai que ça reste encore, même aujourd'hui, en 2020, la femme, beaucoup plus que l'homme, qui prépare le repas pour la famille. Et ça, c'est clairement une différence purement sociale. Il n'y a pas de raison biologique là-dedans. Dans les différences d'alimentation, on peut aller essayer de chercher des différences métaboliques, jusqu'à présent, n'ont pas vraiment été trouvées, mais c'est des domaines, on va dire, des choses différentes. Le fait de préparer le repas et puis de ce qu'on mange, c'est encore deux choses différentes.
Alors, Christophe Lavelle, puisque cette exposition « Je mange, donc je suis » est pluridisciplinaire, mais aussi aborde plusieurs thèmes, puisque vous avez parlé aussi bien de science, de religion, d'agro-alimentaire, donc oui, d'économie, de politique. Qu'est-ce qui attire les premiers visiteurs, puisque cette exposition est ouverte depuis quelques jours?
C'est un discours scientifique. On est dans un musée qui dépend d'une institution scientifique. C'est le Musée de l'Homme, un des départements du Muséum national d'histoire naturelle. Donc le discours doit être strictement scientifique. Dans ce cadre-là, on n'est pas là pour donner des injonctions, pour juger des comportements ou pour juger des pratiques. On est là pour dire ce que la science est capable de dire. Donc il n'y a aucun, en tout cas on a essayé de n'avoir aucun parti pris dans notre manière d'exposer les faits. Ça vaut pour le glyphosate, pour les OGM, pour tout ce qu'on peut imaginer. On montre qu'est-ce que c'est, quelles sont les conséquences des pratiques qui ont recours à tel ou tel produit ou tel mode de culture, etc. Mais on ne juge pas, on n'est pas du tout là pour ça, on n'est pas une ONG. Après, c'est à chacun, évidemment, en recevant cette connaissance, de se forger une opinion sur ce qu'il estime être bien ou pas bien. Et ça, c'est là-dedans que l'alimentation doit faire débat, et c'est pour ça aussi autour de l'exposition, on a beaucoup de tables rondes, on a beaucoup de conférences qui sont là, pour le coup, pour vraiment avoir des débats. Après, pour la deuxième partie de la question, ce qui vraiment...
Qu'est-ce qui fédère, qu'est-ce qui attire
qu'est-ce qui attire, effectivement, mais il y a toujours des sujets qui font un peu plus fantasmer que d'autres. Par exemple, l'homme préhistorique, ça a toujours fait fantasmer.
Bah oui.
On a envie de savoir qu'est-ce que mangeait Néandertal, qu'est-ce que mangeait Australopithèque, qu'est-ce que... Et ça, c'est toujours... Et puis de voir des restes d'ossements qui ont 100 000 ans, 200 000 ans, voire 1 million d'années, ça fait toujours un peu rêver. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose...
L'histoire
est vraiment notre histoire la plus profonde, la plus ancienne, attire toujours pas mal d'attention. Et puis c'est ce qui est attendu au Musée de l'Homme aussi, c'est un peu notre cœur de métier, ce genre de... Enfin, la préhistoire au sens large. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des choses un peu plus artistiques, justement, mais forcément le crâne de Carême, et puis les œuvres de Carême qu'on a exposées à côté, ça fascine, parce que c'est des grandes pièces montées, c'est des œuvres de pâtisserie extraordinaire, donc il y a toujours quelque chose d'un peu fascinant là-dedans.
Je suppose que le service de vaisselle de l'Élysée...
Pareil, évidemment, c'est un peu des pièces, des pièces uniques, évidemment, enfin uniques. Service de vaisselle, il y a 900... chaque pièce est en 900 exemplaires, mais bon, ça reste quelque chose, effectivement, d'un peu exceptionnel. Et puis, effectivement, c'est le côté voyage. Il y a le côté exotique, quand même, qui est un bon fond de commerce, sans faire une analogie trop économique, mais effectivement, on aime regarder ce qui se passe ailleurs, soit à travers les produits, soit à travers les modes de culture, les pratiques. Et c'est vrai que ça, voilà, c'est toujours des côtés voyage un peu qui titillent l'imaginaire et qui donnent éventuellement envie d'aller tester sur place.
Alors, puisque vous avez utilisé la formule fond de commerce, Christophe Lavelle, et il y a aussi une place de comment on distribue, comment on commercialise les aliments. Dans cette exposition, je mange, donc je suis. Et la question qu'on se pose à la fin de cette exposition, c'est est-ce qu'on se dirige vers une alimentation universelle, mondialisée ?
Alors, c'est effectivement le dernier espace ressemble à un supermarché parce qu'on voulait aussi être dans le concret. Aujourd'hui, on se projette à la place du consommateur qui est un peu perdu face à l'offre alimentaire ou en tout cas dans les pays, on va dire développés et dans les milieux urbains où on a accès à tout. Absolument à tout. Donc, tous les produits du monde quasiment sont à notre disposition. Donc, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on met dans notre caddie, en fait. Alors, caddie au sens large, hein, ça peut être notre panier au marché, bien évidemment. Et à partir de là, on tire des ficelles sur tel type de... telle viande, tel poisson, tel légume, tel mode de production. On essaie d'en donner les tenants, les aboutissants de chaque type d'ingrédient pour que le consommateur se transforme en consomme-acteur, à savoir vraiment quelqu'un qui non seulement d'un point de vue passif remplit son caddie, mais aussi d'un point de vue actif, par les choix alimentaires qu'il fait, pousse la société dans une certaine direction. Et quand je dis la société, ben c'est les producteurs, c'est les distributeurs. Et c'est vraiment ça qu'on voulait aussi mettre en avant, de montrer le pouvoir du consommateur, parce que c'est par ses choix qu'il va, bien entendu, orienter le fait de, si j'arrête de manger du cabillaud, ben ça va effectivement montrer aux marailleurs et aux pêcheurs, au-delà de ça, qu'il y a peut-être arrêter d'en pêcher autant qu'on en pêche.
Sauf que ces supermarkets, on peut les trouver aussi bien en Asie, en Europe qu'en Afrique.
Tout à fait. Donc il y a un côté universel, un côté effectivement mondialisé de l'alimentation, mais qui reste quand même avec des identités très fortes selon les pays, parce que dans les supermarchés, on ne trouve pas du tout la même chose à Shanghai et à Paris, pour le moment, ça c'est vrai. Deuxièmement, là, c'est vrai qu'on a une vision très citadine de la chose, mais le supermarché, c'est loin d'être un modèle universel. C'est un modèle universel dans les grandes villes, on va dire, mais il y a quand même une grosse partie du globe dans laquelle un supermarché n'existe pas. L'alimentation, on la trouve dans les petits... commerçants, les petits marchés, les distributeurs qui vont donner les produits. Le fait de manger bio et local, c'est presque ce qu'on fait par défaut dans beaucoup d'endroits. Beaucoup d'endroits dans les campagnes, on mange bio et local, exclusivement, quasiment. Et il y a effectivement... on a plus ou moins accès à ces grandes surfaces qui ont une alimentation, qui proposent une alimentation un peu plus, effectivement, universelle et mondialisée. Mais il y a quand même encore, et on voit quand on voyage, des disparités, et heureusement, des disparités énormes dans nos manières de manger. Et encore une fois, sauf peut-être dans certaines grandes villes. C'est vrai que quand je vais dans un fast-food, que ça soit à New York, que ça soit à Sydney, que ça soit à Paris ou à Londres, grosso modo, c'est la même chose. On est d'accord, à peu de choses près. Mais ce n'est pas le cas d'une alimentation plus terroir, traditionnelle, qui existe encore et qui fait encore la fierté et qui est d'ailleurs de plus en plus patrimonialisée. Il y a vraiment une démarche de préservation et mais aussi de valorisation de ces cuisines. Et on le voit bien chaque année à l'UNESCO, le nombre de dossiers qui arrivent sur la table pour rentrer au patrimoine immatériel de l'humanité, qui sont des dossiers alimentaires. C'est-à-dire telle recette, tel type de cuisine, telle manière de table, il y a vraiment un souci de plus en plus de valoriser notre culture alimentaire.
Et si on passait par le goût, est-ce que le goût, ça se cultive? Est-ce qu'il est intimement lié à un développement économique aujourd'hui, Christophe Lavel, dans le monde?
Alors le goût, il y a vraiment deux choses. Il y a l'inné et l'acquis, pour simplifier. C'est-à-dire qu'il y a un facteur physiologique et génétique, des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Typiquement, on a une attirance naturelle pour le sucré, mais pas pour la mer. Ça, c'est ancré dans nos gènes. Pour des raisons d'évolution, le sucre, c'est de l'énergie. La mer, ça peut être poison. Donc, bon, je simplifie un peu, mais on a cette idée-là quand même. Et puis, par-dessus ce côté complètement universel, c'est-à-dire que partout dans le monde, on aime le sucré, mais on n'aime pas la mer, au fur et à mesure, se construit le goût un peu plus développé, où là, ben, le nourrisson, au fur et à mesure, le nourrisson va pas apprendre grand-chose, mais le jeune enfant, par mimétisme, va regarder un peu ce qui se passe, ce qu'on lui propose, ce qu'on va l'encourager à manger ou pas. Et puis après, ça continue tout au long de l'adolescence et plus tard, le fait par exemple la bière, si je donne de la bière juste pour goûter, même une bière sans alcool, on va dire un enfant de 10 ans, c'est horrible pour lui, l'amertume, il va pas aimer ça. Et puis à l'adolescence, un peu plus tard, d'un point de vue social, on se met à partager des bières et puis on finit par aimer ça, apprendre à aimer, ou comme le café. Toutes ces choses-là sont des choses qui se construisent au fur et à mesure, on finit par se construire une alimentation.
On est dans l'identitaire quand on parle d'aliments?
Bien sûr, une grosse partie, comme c'est de la construction sociale, c'est de l'identitaire, et effectivement. Et le fait d'aimer un aliment permet aussi de construire un groupe social. Nous sommes les gens qui buvons du café et buvons du vin. Vous êtes les gens qui buvez de la bière et mangez des saucisses. Il y a clairement une construction sociale qui est faite et qui permet de circonscrire les groupes d'individus. Après, bien entendu, tout ça étant totalement poreux, et on peut soi-même d'ailleurs évoluer à un moment de sa vie, on va aimer tel ou tel type d'ingrédient qu'on va moins consommer après pour des raisons diverses et variées, qui peuvent être des raisons éthiques, qui se rajoutent aussi à notre manière de forger notre goût. Beaucoup de gens se disent je mange pas de viande au départ, c'est pour des raisons éthiques, mais ils finissent par perdre le goût en disant j'aimais bien ça, mais maintenant ça me dégoûte, j'ai plus envie d'en manger autant, je mange encore un peu de temps en temps, mais moins. Et clairement, on est dans une construction sociale. Il n'y a pas de raison physiologique pour que cette personne aime moins la viande, mais son environnement, la pression sociale, les discours font qu'elle finit par moins aimer ça.
Dans cette exposition Je mange, je suis, on n'a pas parlé des menus, on n'a pas parlé des vaisselles, on n'a pas parlé des livres de cuisine, on n'a pas parlé de la pêche, de notre relation avec la mer, de l'élevage, mais il y a un livre qui remplace à peu près le catalogue. C'est un très beau livre qui est un petit dictionnaire curieux de l'alimentation et qu'on peut trouver au musée de l'Homme.
Tout à fait, à la librairie du musée de l'Homme.
Ouais, en attendant de le trouver peut-être dans d'autres librairies. Et ça, c'est un dictionnaire que vous avez conçu à partir, effectivement, des pièces exposées dans cette expo.
Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment un ouvrage collectif, puisqu'on a rassemblé une quarantaine d'auteurs, dont beaucoup avaient contribué à l'exposition, qui sont à 95% des chercheurs du muséum, et qui ont chacun écrit une des entrées, ou une ou plusieurs entrées de ce mini-dictionnaire.
Avec l'art culinaire qui a une place assez importante d'ailleurs, parce que ça reste quand même abusé.
Oui, oui. Et la cuisine et l'art d'apprêter les mets et de les rendre agréables au goût, telle est la définition de Bria Savarin. Et je pense que c'est important de garder ce rappel sur le fait que la cuisine est une activité, bien entendu, essentielle, quotidienne, domestique, mais aussi avec une forte composante artistique.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Élise Leu était à la technique ce matin, Corinne Amard à la coordination et Vincent Abouchard à la réalisation. L'exposition Je mange donc je suis, c'est au musée de l'Homme, place du Trocadéro à Paris jusqu'au 1er juin. Merci à Christophe Lavel, commissaire scientifique de cette exposition, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.
Merci à vous.
Bonne journée. Nous on se retrouve demain, si tout va bien.
France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture et le Théâtre de la Ville vous invitent à passer une journée avec trois pionniers de la danse au XXe siècle. Lecture d'extraits de Ma vie d'Isadora Duncan, Mémoire de la danse de Martha Graham et Le danseur et la danse de Merce Cunningham. Rendez-vous ce samedi de 15h à 17h30 à l'Espace Cardin à Paris. Programme complet et réservation 01 42 74 22 77 et sur franceculture.fr.
Une féministe avant l'heure, Jane Eyre de Charlotte Brontë sur France Culture. Pauvre, orpheline, grâce à sa seule force de caractère, elle parviendra à faire sa place dans la société corsetée de l'Angleterre victorienne et à trouver l'amour.
Tout le monde répétait que j'étais méchante. Et peut-être l'étais-je. Ne venais-je pas de penser à me laisser mourir de faim ?
Mystère, coup de théâtre, une passion amoureuse qui défie tous les obstacles, Jane Eyre, le feuilleton, de lundi à vendredi à 20h30 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les enfants exposés aux écrans tôt le matin avant d'aller à l'école ont trois fois plus de risques d'avoir des troubles du langage. Analyse de Santé publique France ce mardi et nous y revenons en détail dans un instant. Vous entendrez ensuite un représentant de la CFDT Cheminots. Il appelle à des rassemblements partout en France aujourd'hui avant de nouvelles négociations sur la réforme des retraites. 220 soldats français de plus au Sahel dès la semaine prochaine. Emmanuel Macron conforte la force Barkhane et accuse la Russie de décrédibiliser son action. Les mots du président français dans ce journal. Et puis parole donnée au porte-parole de l'armée israélienne. Il est à Paris en ce moment alors que l'Iran menace encore son pays. On les savait néfastes. Une étude vient un peu plus prouver leur dangerosité. Les écrans ne sont pas bons pour la santé des enfants. Ils seraient même la cause de troubles primaires du langage chez les jeunes enfants, d'après une étude publiée ce matin par l'Agence sanitaire Santé publique France. Elle met notamment en lumière l'effet délétère des écrans le matin avant d'aller à l'école, Maxime Tellier.
L'étude a été menée sur des enfants de 3 à 6 ans, à l'âge où apparaît et se construit le langage, une période de la vie où les écrans seraient particulièrement nocifs d'après l'auteur de l'article, le docteur Manon Collet, médecin généraliste.
On a vraiment réussi à montrer que le moment exposition aux écrans le matin avant l'école avait un lien statistique fort avec le risque d'apparition de troubles primaires du langage. Au-delà de la durée d'exposition le matin, c'est pas une question de les mettre longtemps ou pas longtemps, c'est vraiment le moment d'exposition. Nous pensons que l'exposition aux écrans dès le matin va épuiser l'attention de l'enfant, qui se retrouve alors moins apte aux acquisitions et aux apprentissages pour le reste de sa journée.
Et l'étude montre aussi l'importance de l'accompagnement à l'écran, donc le rôle des parents. Si l'enfant ne discute pas avec son entourage du contenu des écrans, alors les effets sont encore plus néfastes. Il y a ainsi 6 fois plus de risques de développer des troubles du langage en cas de visionnage d'écran le matin et sans en discuter après. L'auteur de l'étude rappelle toutefois que ces effets ne sont pas irréversibles.
On a de la chance et l'avantage de pouvoir jouer sur cette exposition. Il suffit de réglementer et d'accompagner correctement. L'accompagnement aux écrans est vraiment important. Il peut y avoir des conséquences assez facilement réversibles. Donc c'est pour nous un enjeu de santé publique.
Et certaines associations ou médecins n'hésitent pas à parler de scandale sanitaire à propos de la surexposition aux écrans. Mais pour l'instant, il n'existe pas de loi ou de réglementation contraignante. Le sujet sera au menu des premières assises de l'attention. Ce sera le 1er février à Paris.
Les effets délétères des écrans sur les jeunes enfants, c'est aussi un article à lire sur notre site franceculture.fr. Après son offre de compromis au syndicat modéré, le gouvernement tente de désamorcer le conflit sur les retraites. Des ministres ont ainsi rencontré hier les représentants des enseignants et des avocats. Pour les enseignants, l'exécutif s'est engagé hier à consacrer 500 millions d'euros à des augmentations de salaire dès l'année 2021. Les avocats, en revanche, sont ressortis déçus de leur rendez-vous avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Du côté des cheminots maintenant, des rassemblements vont avoir lieu ce mardi. C'est la CFDT Cheminots qui lance un appel. Elle se différencie en cela de la CFDT au niveau national, qui avait plutôt vu d'un bon œil les récentes annonces du gouvernement. À la SNCF, en revanche, le syndicat souhaite obtenir davantage de concessions pour les agents au statut qui seront concernés par la future réforme des retraites, à savoir ceux nés après 1985 pour les conducteurs et ceux nés après 1980 pour les autres catégories du personnel. Plus de concessions donc de la part du gouvernement. Un rendez-vous doit avoir lieu cet après-midi avec la direction de la SNCF. Écoutez à ce propos Rémi Aufrère-Privel, il est secrétaire général adjoint de la CFDT Cheminots.
Il y a eu quelques avancées, on ne minore pas les quelques avancées du 19-20 décembre, mais manifestement ça n'a pas recueilli l'enthousiasme en tout cas de nos collègues sur le terrain. Donc on a essayé de pousser quelques autres revendications pour donner encore un peu plus de chair à ces garanties. L'intégration des primes, évidemment, l'intégration d'évolution salariale pour ceux qui n'ont pas de primes. Il y a quand même un tiers des personnels qui ne disposent pas de primes très conséquentes. Vous avez l'amélioration du compte épargne-temps. Vous avez peut-être quelques dispositions salariales à mettre autour du salaire actuel pour faire en sorte que le niveau de pension, finalement, corrige l'effet anciennement calculé des 6 derniers mois. Maintenant, quel est l'impact budgétaire? C'est pas facile à définir. D'abord, l'actualité budgétaire de la SNCF n'est pas très bonne à cause des 700 millions d'euros de pertes, on comprend bien ça, mais c'est pas nous qui avons souhaité faire la grève à compter du 5 décembre. Manifestement, si le gouvernement avait une oreille plus attentive, on aurait pu éviter ce préavis de grève spécifique CFDT. Donc on pense qu'il y a quand même un espoir de négocier les différents éléments dont je viens de vous parler pour présenter cela aux cheminots, parce que c'est quand même eux qui font de grève, et en fonction de ces avancées, qu'ils décideront ou non de reprendre le travail.
Des propos recueillis par Anne-Laure Jumet. Plus d'un millier de médecins de l'hôpital public menacent de démissionner de leurs fonctions administratives. Ils l'écrivent dans une lettre envoyée aujourd'hui à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Une démission collective pour protester contre le manque de moyens et les bas salaires dans les hôpitaux publics. 220 soldats français supplémentaires au Sahel. L'annonce a été faite hier soir par Emmanuel Macron après un sommet organisé à Pau avec les chefs d'État du G5 Sahel. Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Mauritanie. 5 pays confrontés à l'explosion de la menace djihadiste ces 8 dernières années. La stratégie militaire a donc été revue avec la promesse d'une meilleure coopération entre les forces armées et la force Barkhane qui représente 4500 soldats français. Il y a aussi eu hier un appel au soutien international lancé par le président français. Emmanuel Macron qui a de nouveau fustigé les discours anti-français qui prolifèrent à Bamako, à Ouagadougou et sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron pointe sans la nommer l'influence russe croissante dans la région.
J'entends beaucoup de choses sur les réseaux, dans les déclarations. J'entends beaucoup de gens dans votre pays qui disent tout et n'importe quoi. Demandez-vous par qui ils sont payés. Demandez-vous quels intérêts ils servent. Moi, j'ai mon idée. Mais que ces gens-là disent qui se fait tuer pour leurs enfants. Moi, je sais qui est tombé pour la sécurité des Maliennes et des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés, des soldats français. Donc, les discours que j'ai pu entendre ces dernières semaines sont indignes. Indignes. Et ils sont combattus avec beaucoup de fermeté par vos dirigeants et je les en remercie. Sont indignes parce qu'ils servent aussi d'autres intérêts. Demandez-vous bien. Soit ils servent les intérêts des groupements terroristes qui voudraient voir plus puissants dans votre pays, soit ils servent les intérêts d'autres puissances étrangères qui veulent simplement voir les Européens plus loin parce qu'ils ont leur propre agenda, un agenda de mercenaires. Vous n'avez pas cet agenda-là. L'armée française, elle est là pour la sécurité et la stabilité. J'ai pas d'autre intérêt.
Des propos recueillis par Louise Baudet et nous reviendrons sur les enjeux du G5 Sahel avec les enjeux internationaux et Julie Gacon dans ce studio à 8h45. 11 jours après le raid contre le général iranien Qassem Soleimani, le Moyen-Orient redoute encore un embrasement car Téhéran ne va sans doute pas s'arrêter là. L'Iran a déjà menacé de s'en prendre à Israël, son ennemi juré au Moyen-Orient. Le porte-parole de l'armée israélienne est cette semaine de passage à Paris. Il fait passer quelques messages en Europe. Franck Madvon l'a rencontré.
Le lieutenant-colonel Jonathan Conricus ne s'en cache pas, la mort de Qassem Soleimani est un soulagement pour Israël.
Israël voit l'empreinte de l'Iran dans presque toutes les organisations terroristes qui menacent les citoyens israéliens depuis 20 ans. Et dans de nombreux cas, l'empreinte était celle de Qassem Soleimani. Donc oui, c'est pour nous une bonne chose que ce terroriste ait été tué. Mais c'est d'abord un problème entre les États-Unis et l'Iran.
Le porte-parole de l'armée israélienne rappelle que son pays a déjà subi de nombreuses attaques de l'Iran via ses combattants, ses alliés, depuis la Syrie bien sûr, mais la crainte aujourd'hui c'est le Hezbollah au Liban.
Le Hezbollah a pu stocker des quantités massives d'armes au Liban. Ils ont un arsenal de 130 000 roquettes. Nous attendons de la France qu'elle exerce plus de pression pour réduire l'influence de l'Iran au Liban dans l'intérêt des Libanais.
Israël s'apprête à tester un nouveau système laser pour intercepter drones et missiles ennemis.
Ce système peut viser des cibles petites, agiles ou plus importantes, plus lentes. Toutes les organisations qui nous menacent disposent aussi de nouvelles technologies et nous devons nous défendre.
Un système complémentaire du dôme de fer qui permet, selon l'armée, d'intercepter 90% des tirs visant Israël.
C'était Franck Madvon pour France Culture. Le nom du prochain président du jury du Festival de Cannes est connu. Il s'agira du réalisateur américain Spike Lee. Je n'en suis pas revenu, j'étais à la fois heureux, surpris et fier, a-t-il dit ce matin, à 5 mois du festival. Un large quart nord-ouest sera sous la pluie aujourd'hui. Des Pays de la Loire jusqu'à la Lorraine en passant par l'Île-de-France, le vent s'ajoutera aux averses, surtout sur les côtes du Finistère et du Morbihan. Ailleurs, le temps restera ensoleillé aujourd'hui. Ce matin, comptez 5 degrés à Besançon, 6 à Bordeaux, 8 degrés à Lyon, 10 degrés à Lille et Paris, 11 à Marseille. Il est 6h40 et avant d'accueillir Julie Gacon pour les enjeux internationaux à 6h45, vous l'avez compris tout à l'heure, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jacques Meunier. Bonjour Jacques.
Bonjour Clara, Clara Lecoq-Réal, plaisir partagé, bonjour à toutes et à tous.
Jacques, vous nous revenez en pleine forme pour votre journal des idées. Un journal consacré ce matin au grand débat national, à la Convention citoyenne pour le climat, au comité d'éthique, aux états généraux de l'éducation. Des moments où les citoyens sont de plus en plus invités à prendre la parole. Mais pour quel résultat, Jacques?
Eh oui, nous serions entrés dans l'ère de ce que Paul Valadier désigne dans un ouvrage récent comme le débat permanent, procédé dilatoire ou manœuvre destinée à reporter sur la société civile la responsabilité d'un choix délicat comme en matière de bioéthique ou de fin de vie. Le philosophe dénonce le recours immodéré aux commissions spéciales comme un recul de la décision politique. La langue est la meilleure et la pire des choses, disait Ésope. C'est le lien de la vie civile, l'outil de la raison et de la science, mais c'est aussi la cause de toutes les disputes, la source de la calomnie et du mensonge. Le site d'information Les Jours a entrepris de décrypter la communication politique de l'Élysée en temps de crise sociale et notamment les fameux éléments de langage fournis clé en main à destination des journalistes. Le 5 décembre, journée de manifestation et de forte mobilisation en France contre la réforme des retraites, la communication du palais laissait filtrer cette information essentielle. Emmanuel Macron se dit calme et déterminé. Raphaël Garrigos et Isabelle Robert rappellent que dans la doctrine élyséenne, ce sont les guillemets qui authentifient la citation et les propos, mais depuis lors, il y a eu un mais, le guillemet gate. Le 18 décembre, le conseiller com du président lâche qu'Emmanuel Macron est, ouvrez les guillemets, disposé à améliorer le projet présenté par son premier ministre. Une phrase qui s'est répandue comme une traînée de poudre et qui plaçait le chef du gouvernement en fâcheuse posture, ce que l'intéressé n'aurait guère apprécié. Du coup, abandon des guillemets, fini de sourcer selon l'Élysée et pas de bandeau sur les chaînes info. Les éditions Alia viennent opportunément de rééditer l'ouvrage d'Éric Chauvier intitulé « La crise commence ou finit le langage », augmenté d'un chapitre sur les réseaux sociaux. D'abord publié à l'issue de la crise financière de 2008, le livre dénonçait le caractère intimidant de certains mots comme celui de crise, que l'on prononce pour décourager toute tentative de compréhension de ce qu'il recouvre. Comme tous les mots pétrifiés, ils alimentent une rhétorique de l'urgence destinée à nous faire accepter l'inacceptable. L'anthropologue utilise les ressources de la pragmatique du langage, l'étude des interactions produites dans l'échange verbal. Pour tous ces termes techniques qui permettent de se payer de mots grâce à l'autorité qu'ils confèrent, même si leur aptitude à décrire et analyser se révèle faible. Il faudrait rendre grâce à la science d'avoir dispensé avec autant de générosité son langage conceptuel, de l'avoir fait choir de ses tours d'ivoire pour guider les âmes errantes, observe-t-il dans un autre livre au titre éloquent « Les mots sans les choses ». Riche de tant de citoyens éclairés, la démocratie ne pourrait que mieux s'en porter. Mais loin de l'Éden de lumière attendue, il lui faut au contraire y reconnaître le point culminant d'un état d'aliénation généralisée qui soutient la démocratie comme le Kudjat porte l'aveugle dans une forêt en feu. À propos des réseaux sociaux, Éric Chauvier souligne la concomitance de leur essor avec la crise de 2008. Face à l'éther glauque désigné du mot de crise, un processus cognitif et langagier serait-il à l'œuvre ? La hausse vertigineuse des abonnés à Facebook ou Twitter depuis lors illustrerait selon lui l'expression d'un état de malaise généralisé qu'on aurait fait passer pour de la communication, une communication reposant sur les répliques algorithmique de nos profils. Je cite, les individus productifs communiquent avec une assurance illimitée qui ne s'inspire plus de leur moi singulier, mais du modèle des identités stables et immuables que l'on trouve sur les réseaux sociaux. D'où la nécessité impérieuse de se réapproprier le langage. La dernière livraison de la revue Effeuillage, consacrée à l'analyse des médias et animée par des étudiants du CELSA, porte notamment sur les voix douces ou rauques, atypiques et uniques qui ouvrent la voie à une relation particulière avec les auditeurs et les auditrices. Comment le grain d'une voix peut-il faire la couleur d'une radio ? Laura Frémy analyse la fabrique d'un phonostyle radiophonique féminin dans les années 70 avec la bonne fée des automobilistes dans les bouchons, notre consoeur FIP, une voix en mini-jupe, intime et rieuse, un mélange de charme, d'ironie et d'autodérision, selon Chris Graffiti, l'émergence des podcasts natifs avec des voix alternatives, dissonantes, minoritaires et engagées, confirme aujourd'hui pour Mathilde Vatkan que le média radio le média audio permet un traitement différent des sujets par rapport au caractère instantané de la télévision et de l'image. Conclusion, le long terme ne peut être géré que par le langage. Vous écoutez France Culture, il est 6h45 et tous les podcasts du monde ne valent pas la voix bien présente et en direct de Julie Gacon.
Bonjour Jacques Mignot, ça fait tellement plaisir de vous retrouver.
C'est
bienvenue.
Gentil.
Vous savez que le grain de votre voix fait aussi la couleur de ces petits matins, alors vous nous avez beaucoup manqué.
Merci, ravi de vous retrouver. Au sommaire des enjeux aujourd'hui, Julie, la France et les pays du Grand Sahel ont-ils trouvé un sens à leur mission ?
Oui, du G5 Sahel. C'est juste avant le sommet qui s'est tenu hier à Pau, Emmanuel Macron avait demandé à ces pays du G5 Sahel, donc le Niger, le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, de faire la démonstration de leur attachement à l'opération Barkhane, de manifester leur désir d'être ainsi soutenus par la France dans leur lutte contre les djihadistes qui déstabilisent la région depuis plus de 7 ans. C'est donc ce qu'ils ont consenti à exprimer à la fin du sommet d'hier, dans la déclaration commune finale, leur souhait de la poursuite de l'engagement militaire de la France au-delà donc des accusations d'ingérence ou de néocolonialisme exprimées par leur population. La France a, quant à elle, annoncé qu'elle enverrait 220 hommes supplémentaires dans une région dont je rappelle qu'elle est grande comme l'Europe. Plus de moyens donc, mais les militaires de l'opération Barkhane y voient-ils plus clair sur leur mission, sur leurs objectifs, sur leur ennemi ? Bonjour Alain Antil.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable du programme Afrique subsaharienne à l'IFRI. Vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques de Lille et à l'Institut supérieur technique Outre-mer, l'ISTOM. Alors Alain Antil, pour rester d'abord sur le volet strictement militaire, hier à Pau, l'heure n'était pas tellement au bilan, au regard rétrospectif sur l'opération Barkhane, déployée depuis 2014. Il s'agissait plutôt de se donner des perspectives, mais on peut le faire rapidement avec vous. Après 18 mois d'opération, quel succès peut-on mettre aujourd'hui dans cette région à l'actif de cette force antiterroriste dans le Sahel ? Est-ce que des chefs djihadistes ont été neutralisés, comme on dit ? Est-ce que des troupes de combattants terroristes, si ce n'est dissoutes, du moins désorganisées ?
Oui, il faut dire que la mission Barkhane, quand elle a été installée en 2014, avait plusieurs objectifs. Le premier était d'éviter la réinstallation de sanctuaires djihadistes. C'est-à-dire que les djihadistes contrôlent de manière pérenne de certaines zones. Et la deuxième mission était de soutenir les armées nationales, notamment pour qu'elles puissent, à leurs frontières, coopérer entre elles. Alors, Alors des succès, Barkhane en a eu, continue à en avoir, puisqu'on estime qu'il y a au moins 600 djihadistes qui ont été neutralisés, dont certains cadres du GSIM et même de l'EIGS.
Alors de l'État islamique au Grand Sahara, notamment. Alors on a des bilans opérationnels de l'armée, ils existent. Dans le journal Le Monde hier, un militaire disait faire du scalp n'a jamais rien réglé. Pour l'instant, le seul bilan, c'est ça, c'est avoir fait du scalp, comme dit ce militaire, c'est avoir neutralisé 600 djihadistes, dont des chefs quand même.
Oui, mais évidemment, il faut tout de suite nuancer ce que je viens de dire par le fait que quand on regarde la carte des pays du G5 Sahel, malgré l'opération Barkhane, malgré l'émergence de la force conjointe du G5 Sahel, les violences ont continué à augmenter, surtout depuis 2018. Il y a plus de groupes armés djihadistes et non djihadistes qu'en 2014. Ces groupes armés concernent des territoires plus vastes, et le nombre de victimes a augmenté ces deux dernières années, et le nombre de déplacés aussi. Et ce qui est très inquiétant, c'est que ces trois derniers mois, on assiste à des attaques contre des positions défensives de différentes armées locales. Auparavant, il y a eu des revers des armées nationales, mais c'était surtout des embuscades ou des combats en brousse. Or, ces trois ou quatre derniers mois, on a des djihadistes qui attaquent des positions défensives de ces armées, avec des nombres de victimes qui augmentent. Donc les armées du Niger, du Burkina Faso et du Mali sont en très grande difficulté. C'est un des aspects, disons, de contexte de cette réunion. Le deuxième, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est la montée du sentiment anti-français qui est présent dans les opinions publiques, mais aussi parfois relayé au sein des élites, voire chez certains ministres. D'où une demande de clarification de la France.
La France qui semble avoir pris acte d'une critique, notamment c'est celle de l'inefficacité de son déploiement. On a beaucoup dit ici et même récemment encore combien étaient inopérants 4500 hommes dans une zone grande comme l'Europe. Apparemment, il y a un changement de stratégie en vue. Ce ne sont pas les 220 hommes dont Emmanuel Macron a parlé hier, mais c'est vraiment une question de stratégie de redéploiement.
Oui. Bon, c'était déjà le cas parce que évidemment les 1500 hommes ne combattent pas partout au Sahel. L'essentiel des opérations de Barkhane, on trouve ces informations assez facilement, se sont concentrés sur le nord du Mali, sur le centre du Mali, sur l'ouest du Niger. Donc ce qui a été décidé hier, c'est qu'il y allait avoir un redéploiement des forces de Barkhane dans la zone dite des trois frontières, aux frontières des trois pays que je viens d'évoquer.
Mali, Niger, Burkina Faso.
Oui. Et un rapprochement des commandements de Barkhane et de la force conjointe du G5 Sahel. Ce qu'on peut lire à travers les lignes, c'est qu'on aura, certainement Barkhane va donner des consignes de plus en plus strictes aux forces conjointes à la force conjointe du G5 Sahel. Donc c'est essentiellement ce qui a été évoqué avec l'envoi de 220 militaires supplémentaires.
Alors est-ce que vous avez l'impression, Alain Antil, que les armées savent un peu mieux où elles vont au Sahel? C'est la question qui se pose, celle du sens d'une mission qui quand même a tout l'air d'un bourbier. Est-ce que la question est abordée frontalement aujourd'hui, histoire de ne pas répéter à chaque fois les mêmes erreurs, celles d'opérations militaires qui n'ont pas été suffisamment pensées en amont, qui ne définissent pas clairement les objectifs poursuivis, qui ne savent même pas parfois quel ennemi au juste ils doivent combattre, exactement ce que les Afghanistan Papers ont révélé ou confirmé récemment au sujet de l'intervention américaine de 2011. Ici, sur la force Barkhane, le chef d'état-major des armées, le général Lecointre, a dit récemment « Aujourd'hui, nous faisons en sorte que le pire soit évité ». Est-ce que depuis, vous avez l'impression que s'est posée la question du sens? Parce que éviter le pire, c'est pas tellement le sens d'une mission militaire.
Oui, bien sûr. Et là, on doit poser clairement la question de manière politique plus que de d'établir un bilan de Barkhane en termes militaires, c'est que aujourd'hui la menace au Sahel est bien plus large que la question terroriste. Et même quand on se penche sur l'analyse de ce que c'est que le terrorisme au Sahel, on voit que de plus en plus ce sont des insurrections qui adoptent un manteau djihadiste. On n'est pas au Sahel dans un affrontement global et contre une armée qui avancerait ou qui reculerait, une armée djihadiste qui avancerait et qui reculerait. Mais en fait, on a plein de petits foyers qui s'allument les uns après les autres. Certains s'éteignent parfois. Ce sont des tensions locales qui parfois attirent les djihadistes. C'est-à-dire les djihadistes viennent s'installer dans des zones où il y a des tensions très très fortes entre des communautés et l'État. Et utilisent un peu l'absence ou la médiocrité de la présence de l'État dans certaines zones, voire le caractère un peu, disons, agressif de la présence de l'État dans certaines zones pour s'installer. Donc on n'a pas affaire à un front, on a affaire à de multiples micro-conflits qui peuvent devenir ou non djihadistes. C'est pour ça que l'analyse politique me paraît, dans cette histoire, assez faible. Et il faudrait déjà s'entendre sur ce qu'on appelle djihadisme dans la zone.
Alors, juste un petit mot justement sur cette organisation État islamique dans le Grand Sahara, le IGS. Matteo Paxton, qui analyse, donc quelqu'un qui analyse toutes les vidéos de l'État islamique dans tous les pays du monde, nous disait récemment dans les Enjeux internationaux que cette organisation, l'État islamique au Grand Sahara, n'était pas du tout visible pendant longtemps dans la propagande de l'État islamique, sans doute pour des raisons aussi de communication, de connexion avec l'appareil central, mais que depuis quelques temps, et notamment depuis la chute de Baghouz en Syrie, on voit cette branche de plus en plus visible qui mène des opérations calquées, nous disait-il, sur celle du Nigeria, à tel point qu'on se demande aujourd'hui s'il n'y a pas une connexion physique entre les combattants du Nigeria et ceux de la branche sahélienne, ce qui était très inquiétant, disait-il, parce que si des cadres ou des instructeurs du Nigeria viennent épauler, former des gens au Sahel, forcément ça prend une autre dimension, ce conflit-là. Mais pour l'instant, vous dites, ce sont des groupes isolés les uns des autres.
Alors, le problème, c'est quand...
En tout cas, on ne peut pas le définir.
C'est quand une zone est, pendant des années, contrôlée à la fois par les groupes armés, un peu par l'État, un peu par des groupes armés non terroristes, eh bien, évidemment, au bout d'un moment, ces groupes entrent en communication les uns avec les autres. Et on a eu dans la zone, parfois, des coopérations entre l'État islamique et Al-Qaïda, par exemple. Et ce qui n'était pas le cas au Moyen-Orient, où les deux organisations étaient plutôt rivales. Il faut préciser que dans cette zone, on a deux branches de l'État islamique, puisqu'on a l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui est une scission de Boko Haram et qui est installée donc sur le bassin du lac Tchad. Et puis on a cet État islamique au Grand Sahara. Alors beaucoup disons parle comme vous le faites de connexion entre ces deux groupes. Alors il faudra avoir accès aux documents, disons des renseignements pour être vraiment sûr. Ce qu'on évoque aussi, c'est que il y a la possibilité que certains combattants viennent de plus loin et notamment de Libye. Il y a des commentateurs au Niger qui s'interrogent sur certaines des dernières attaques qui ont eu lieu sur le territoire nigérien. Sont des attaques de grande envergure avec 100 ou 200 hommes de djihadistes qui attaquent une position défensive de l'armée nigérienne, des modèles d'attaque assez élaborés. Et certains évoquent l'arrivée dans la zone de gens qui auraient combattu dans d'autres territoires. Alors c'est à vérifier bien sûr, mais c'est quand même un questionnement événement qu'il faut avoir en tête.
Alain Thil, juste pour conclure, comment la question politique peut éventuellement régler celle du djihadisme? Vous évoquiez tout à l'heure les questions de gouvernance, notamment la question sociale. Est-ce que ces pays du Sahel, qui ont augmenté beaucoup leurs dépenses militaires et de sécurité ces dernières années, doivent aussi et peuvent surtout augmenter d'autres postes de dépenses comme le social? Et est-ce que ça peut régler, contribuer à régler les choses?
Oui, il y a plusieurs réformes de la gouvernance qui doivent être menées, mais ça, tout le monde le sait depuis très longtemps. Et ce qui est, il faut que déjà les élites étatiques soient moins corrompues. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, on déplore la faiblesse des armées de la zone. Dans certains pays, on a des officiers supérieurs qui détournent les budgets des armées nationales. Donc, alors c'est pas la majorité des officiers supérieurs qui font ça, exact. Mais ça existe encore au moment même où leurs hommes se font tuer sur le terrain. Donc il y a un problème de corruption, d'État qui n'arrive pas à remplir ses services de base aux populations.
Merci beaucoup.
Et ça, si on n'arrive pas à régler ces problèmes-là, eh bien le problème militaire va continuer à s'étendre.
Merci beaucoup Alain Thil. On verra ce que donne cette cellule anticorruption mise en place très récemment au Mali. Merci Alain Thil d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une bonne journée.